Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole : Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu.
Nous sommes dans le temple à quelques jours de la Passion de Jésus, après l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et tous les efforts de Jésus sont centrés sur son intention de faire entrer tout le monde dans le salut qu'il vient offrir au monde. Il vient sauver le monde en offrant sa vie et il voudrait que tous puissent entrer. Mais en même temps qu'il souligne la gratuité du salut, en même temps qu'il souligne la gratuité de son amour, il souligne la gravité de nos péchés, la gravité de notre réaction. Et ce sont toutes les paraboles que nous avons déjà lues sur la vigne du Seigneur, et sur chaque fois c'est « le royaume des cieux est comparable à ceci et cela ». Aujourd'hui, le royaume des cieux est comparable à un festin de noces, un roi qui organise les noces pour son fils. Qu'est-ce que c'est que ce festin de noces? C'est le festin préparé dont parlait Isaïe tout à l'heure, à la première lecture, le festin sur la montagne. La montagne, ça veut dire le lieu où se trouve Dieu. Un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse, de vin capiteux, un vin de viande succulente et de vin décanté. Là où il fera disparaître la mort pour toujours. C'est le but, c'est le sens de toute la vie, c'est le sens de toute l'humanité, être réunis, être récapitulés, comme dirait saint Paul, dans le Christ, pour être présentés au Père, pour entrer dans le sein du Père, dans ce qui ressemble à un repas, un festin, c'est-à-dire quelque chose qui nous nourrit, en même temps que quelque chose qui nous nourrit dans la fête, dans une éternelle béatitude. Mais voilà que les invités, et ce n'est pas la première fois que Jésus le souligne, les invités s'en montrent indignes parce qu'ils sont indifférents à cette invitation. Les uns partent pour leur champ, les autres à leurs affaires, et les troisièmes font finalement périr les serviteurs qui viennent les chercher et pour les introduire au repas des noces. Le péché demeure, le péché qui refuse le salut. qui refuse ce festin. C'est un mystère terrible. Comment se fait-il que l'amour soit si peu aimé? Comment se fait-il que l'invitation du Seigneur ne soit pas reconnue? Comment se fait-il qu'il y ait tant d'indifférence par rapport à ce que le Seigneur propose? Mais examinons notre cœur, notre propre cœur. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés indifférents à cette invitation parce que nous avions d'autres choses à faire, parce que nous avions la flemme, parce que nous avions tout un tas de bonnes raisons qui sont toutes mauvaises en réalité? Combien de fois le Seigneur a insisté pour que nous entrions et en réalité nous sommes restés à l'extérieur? Alors, la réaction du roi est impressionnante, c'est la première grande difficulté de cette parabole. La réaction du roi est terrible. Il se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leurs villes. Est-ce que c'est Dieu qui incendie les villes? Est-ce que c'est Dieu qui fait périr les meurtriers? Alors que tout l'Évangile dit le contraire. Le pardon aux pécheurs, le pardon même aux méchants, la miséricorde inépuisable de Dieu. Rendez le bien pour le mal. Sans cesse, Jésus a insisté sur l'inversion que l'amour vient opérer, justement pour répondre au mal par le bien. Donc, ça n'est pas Dieu, évidemment, c'est impossible. Ça n'est pas Dieu qui se met en colère, ça n'est pas Dieu qui envoie ses troupes pour faire périr les meurtriers, ça n'est pas Dieu qui incendie les villes. Dieu ne connaît pas la vengeance. Il n'y a pas de vengeance dans le cœur de Dieu. Ce serait totalement contradictoire. Ce serait absolument impensable. Alors qu'est-ce que veut dire cette vengeance? Mais c'est la réaction des hommes, tout simplement. Quand Jésus, dans la parabole de dimanche dernier, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, disait comment le roi va-t-il, comment le maître de la vigne va-t-il réagir? Et on lui répond, ce sont les pharisiens qui répondent, c'est misérable, Dieu les fera périr misérablement. C'est donc la réaction humaine. La réaction humaine veut qu'effectivement, au mal, on réponde par le mal, et même par un plus grand mal, on se venge. L'amour est totalement étranger à cette notion de vengeance. Dieu n'est pas homme. Dieu, justement, est Dieu et non pas homme. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut au contraire qu'il se convertisse, qu'il vive. Et donc, effectivement, Jésus, dans cette parabole, emprunte cette réaction à notre spontanéité. C'est-à-dire, spontanément, nous disons Dieu réagit comme ça. Mais justement, Jésus veut faire réfléchir pour montrer que non seulement il ne se venge pas, mais il va envoyer des serviteurs pour rassembler plus large encore. Les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Je me demande si on ne peut pas voir un peu plus loin une signification profonde de cette vengeance apparente. Si je n'entre pas dans le salut, la seule issue, c'est la mort. Si je n'entre pas dans le festin des noces que le Seigneur me donne et me donne largement, avec profusion, alors j'entre dans la mort, j'entrerai dans la destruction. C'est vrai, il n'y a pas d'autre chemin, ou bien j'entre dans l'amour de Dieu, ou bien moi-même j'entrerai dans la mort. N'entreront dans l'enfer, n'entreront dans la mort que ceux qui refusent l'amour. Qui refuse l'amour, qui refuse la vérité. Refuser l'amour, refuser la vérité, c'est choisir la haine, choisir le mensonge. C'est ça l'enfer. Et l'enfer, c'est la mort. Quand Isaïe disait tout à l'heure, il fera périr la mort définitivement. Oui, c'est vrai. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, il n'y a plus ni mort, ni pleurs, ni larmes. Il n'y a plus de souffrance. Mais ceux qui resteraient au dehors, est-ce qu'il y en a? C'est le secret de Dieu. Ceux qui resteraient au dehors, ceux qui refuseraient l'amour, ils sont condamnés de fait, mais ils se condamnent eux-mêmes à demeurer dans la mort qui n'a pas de fin. De même qu'en Dieu, la vie n'a pas de fin, En dehors de Dieu, c'est la mort qui n'a pas de fin. Si Jésus dit ces choses, c'est pour faire réfléchir les pharisiens. C'est pour faire réfléchir ceux qui l'écoutent. On ne joue pas avec l'amour, on ne joue pas avec la miséricorde. On la prend au sérieux, c'est grave. La vie est grave. J'engage l'éternité par mon comportement. J'engage ma vie éternelle par la façon dont moi je réponds à l'invitation du Seigneur. Alors vient la dernière partie qui est difficile aussi. Les serviteurs, Dieu entre, c'est là. Il y a une lecture brève qui coupe ce passage, au contraire, qui est tellement important. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Quand on réfléchit à ce festin de noces, l'époux, on voit tout de suite qui c'est, parce qu'il se présente lui-même, c'est Jésus, c'est le Christ. Le Christ, à maintes reprises, s'est présenté comme l'époux. Mais qui est l'épouse? Qui est l'épouse de ces noces? L'épouse, on pourrait dire, c'est le peuple de Dieu. L'épouse, on peut dire, c'est l'humanité. L'épouse, c'est en réalité chacun de nous. Chacun de nous, nous sommes appelés à devenir épouse du Christ pour porter avec lui le fruit de vie, pour échanger avec lui le don de l'amour, pour être hissés au rang de Dieu, être divinisé dans notre vie pour partager éternellement la gloire de son amour. Chacun de nous, nous sommes appelés à entrer dans cette vocation, cet appel de Dieu, cette invitation du Seigneur. Nous sommes appelés à devenir épouse du Christ pour être avec lui enfant du Père. Qu'est-ce que c'est alors que ce vêtement de noces? Le vêtement de noces, ça ne peut pas être les bonnes actions, puisque sont réunis dans la salle des noces les bons et les mauvais. Ce serait totalement contradictoire avec l'amour de Dieu qui est absolument gratuit, qu'il faille avoir des bonnes actions mériter des bonnes actions, mériter la gloire, mériter l'amour par des bonnes actions. Impossible. Et donc le vêtement de noces, ça n'est pas quelque chose qu'on gagne en faisant des choses. Tout l'évangile est en contradiction avec cette réalité. Donc le vêtement de noces ne peut pas être autre chose que quelque chose qui est donné gratuitement par le Seigneur. Qu'est-ce qui est donné gratuitement par le Seigneur? C'est précisément la miséricorde. C'est précisément son amour. Celui qui n'a pas le vêtement de noces, c'est celui qui refuse la miséricorde. C'est celui qui refuse l'amour, qui voudrait entrer par lui-même dans le royaume, qui voudrait entrer par lui-même dans ce festin des noces. Non, le festin des noces, on y est invité. On répond à une invitation. C'est Dieu qui fait le premier pas. C'est le Père qui donne son amour auquel nous répondons. Mais ce n'est pas nous, quelles que soient nos actions les meilleures, ce n'est pas nous qui nous invitons nous-mêmes. Et on voit ça dans la parabole, quand le roi entre pour examiner les convives. Il parle à celui qui n'a pas le vêtement de noces. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Il garde le silence, ça veut dire qu'il refuse d'entrer dans ce dialogue. Il ne répond même pas à celui qui l'invite. C'est la pire des incorrections, c'est la pire des ingratitudes. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Il faut qu'il réfléchisse. » Là encore, c'est pour faire réfléchir les pharisiens. Mais au fond, pour faire réfléchir les pharisiens que nous sommes souvent, jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors. Ça ne veut pas dire que nous ne serons pas un jour introduits dans les noces. C'est peut-être une image là du purgatoire pour nous faire réfléchir, pour que nous prenions conscience que l'amour vient de Dieu, qu'il est gratuit et qu'il se reçoit. N'attendons pas nous-mêmes d'être jetés dans les ténèbres du dehors. N'attendons pas d'avoir les pieds et poings liés. Revêtons le vêtement de noces. Frères, dit saint Paul, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Revêtons donc ce vêtement de noces en venant communier au corps et au sang de Jésus, offert gratuitement à notre méchanceté, offert gratuitement en réponse à nos péchés, en réponse à notre vie. Oui, nous avons péché, mais nous sommes très aimés, d'un amour incommensurable, d'un amour indicible. Confions-nous alors à la Vierge Marie, mère du bel amour, mère de tendresse, mère de miséricorde. Ce festin des noces de l'agneau, alors il y a une chose dont on peut être sûr, c'est qu'il ne manquera pas de vin. Elle qui, à Cana, demande à Jésus, par son silence, le miracle, le premier miracle, le premier signe, ils n'ont pas de vin. Soyons sûrs que, à ce festin d'éternité, le vin ne manquera pas. Vin capiteux, vin savoureux. Entrons dans la salle des noces pour avoir part, nous aussi, dès aujourd'hui, à la gloire de Dieu.